Gaby, bonjour.
Bonjour.
J'ai la chance de te recevoir aujourd'hui. Tu es entre deux étapes. Après l'Angleterre, tu pars aux USA. Mais avant de nous raconter ton futur, tu vas nous raconter ton parcours.
C'est exact. Donc, j'étais ancien élève du lycée français de Barcelone. J'ai fait ma terminale S ici. J'ai aussi passé le BIA, donc c'est le brevet d'initiation à l'aéronautique. Je vous recommande vivement de le faire si vous avez comme projet de poursuivre vos études dans le métier des ingénieurs aéronautiques ou pilotes tout comme moi. En tout cas, c'est une chance de le faire, donc profitez-en. C'est quand même passionnant, surtout quand on est passionné d'aviation, vous pouvez imaginer. En fait, en sortant du lycée français, il faut passer des sélections pour rentrer dans les meilleures écoles du monde d'aviation. Les sélections, c'est pas comme des concours qu'on peut trouver après le bac, c'est des sélections plutôt psychomoteurs, psychotechniques, c'est-à-dire qu'on va faire des tests de motricité, on va faire des tests de simulateur, on va aussi faire des tests de maths, physique, de mémoire visuelle, ainsi que de vitesse. Ils sont faits de façon à voir aussi la progression en deux fois, donc c'est quand même assez aigu, il faut bien se préparer pour ça, il y a des sites en ligne qui vous préparent si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Finalement, après ça, quand on a passé cette sélection, on passe à faire des entretiens. Il y a notamment un gros entretien qui, pour moi, a duré entre 30 et 40 minutes, où en fait, on va vraiment voir le profil que va pouvoir vendre cette école face aux compagnies aériennes qu'on veut être. Une fois qu'on est pris, c'est le bonheur, c'est la gloire, on fait ça. J'ai dû attendre quelques mois avant de pouvoir commencer mon école et j'en ai profité pour être coordinateur de vol à l'aéroport de Barcelona-La Plata. Je travaillais pour une entreprise de handling, donc en fait mon rôle c'était d'être le directeur d'orchestre de toutes les opérations au sol quand un avion arrive jusqu'à que l'avion départ. En tout cas, c'est de la très bonne expérience professionnelle. Si vous êtes intéressé à trouver des jobs assez facilement à l'aéroport, il y a beaucoup de demandes, tant dans les boutiques comme dans le secteur aussi aérien. C'est aussi un coin à regarder pour tous ceux qui seraient potentiellement intéressés. Puis j'ai pu finalement rentrer dans mon école, c'était en février de cette année. L'école se divise en quatre parties, donc cette première partie que je viens de compléter s'appelle la Grand School. C'est l'époque la plus compliquée, c'est l'époque où on va beaucoup travailler, c'est l'époque où on va vraiment souffrir, entre guillemets, toute cette émotion qu'on a pour les avions, parce que bon, quand même, c'est pas toujours facile. C'est l'époque où on les étudie les 14 matières que comprennent l'ATPL, en fait, donc la Airline Transport Pilot License. Il y a différentes matières, par exemple météorologie, il y a aussi radionavigation, il y a aussi flight plan, donc c'est comment on prépare nos vols. Donc vous voyez un peu, c'est quand même très très pratique, on n'est pas du tout dans l'abstrait, ce qui quand même rend la chose très intéressante car depuis le début, depuis la cours 1, on va commencer, on va aller à fond et on va vraiment étudier la machine. Dans la seconde partie, nous allons partir vers les États-Unis à Phoenix, faire nos heures de vol, car après toute la grand school, donc c'est un peu comme la théorie, comme si c'était un permis de conduire, il faut la pratique et en fait c'est aux États-Unis qu'on l'a fait tout simplement, là-bas le fuel est beaucoup moins cher qu'en Europe, donc c'est vraiment très très rentable de le faire là-bas. En tout cas, c'est le bonheur à Phoenix, vous pouvez imaginer, vous prenez un avion tous les matins, vous faites un petit tour avec vos collègues, avec vos instructeurs, enfin bon, c'est la belle époque quoi. En revenant, on repasse à Oxford, on passe sur des avions beaucoup plus gros, on fait ce qu'on appelle notre vol instrumental, donc en fait on s'entraîne à voler sans regarder dehors, on nous met une espèce de lunette dans les yeux et on peut que regarder nos instruments, on va nous enseigner à se guider de façon très précise sans pouvoir regarder dehors, ce qui est quand même assez complexe et quand même une étape plutôt stressante. C'est moins le vol relax de Phoenix, c'est plus du vol appliqué à la vie réelle dans les conditions météo plutôt défavorables. Et puis finalement on fait notre MCC, en fait on le fait dans un simulateur de 737, c'est là où on va nous enseigner à communiquer avec notre partenaire car 80% de notre communication se fait aussi visuellement. Du coup, vous pouvez imaginer que dans le cockpit, les pilotes, ils se regardent pas, chacun regarde leurs instruments. Donc toute cette communication visuelle n'est plus là. Ils nous entraînent à suivre toutes des procédures pour avoir une bonne communication verbale, pour pouvoir bien s'exprimer même si on se regarde pas en face. Quand on a fait tout ça, on reçoit notre petite licence qui est un bout de papier plus petit qu'une carte de crédit, hein, qui vaut très très cher. Après ça, ben c'est le bonheur, on part dans les compagnies aériennes, on vole, et puis voilà quoi, c'est le destin, hein.
En quoi la radio t'a servi ?
La radio, ça donne quand même une confiance au micro. On n'a pas peur, en fait, notamment pour parler aux contrôleurs aériens. Enfin, c'est vrai qu'au début, on est quand même très impressionné. On parle à des contrôleurs aériens, ils sont là professionnels, ils sont là pour vous guider. Mais c'est quand même très imposant. Donc au début, on a la voix qui titube, etc. Mais quand on a déjà parlé devant un micro, ça nous donne un petit air plus confiant. Et aussi, on est plus confiant sur nous-mêmes, ce qui est très important en avion. Car douter de soi-même quand on est aux commandes d'un avion, c'est pas le bon plan, quoi.
Oui, parce qu'il faut rappeler que tu as été ici quand même à la radio pendant 7 ans.
Exact.
À animer des directs.
Oui.
Au départ en groupe et puis après tout seul.
Exactement, j'ai poursuivi avec Pause Café. J'en profite pour saluer Guillaume, mon ex-camarade de radio. Hein. Il est à Lausanne, il fait de l'hôtellerie, il va quasiment finir maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de futur après l'école quand même. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que les prépas, il n'y a pas que les ingénieries. Il vous encourage à regarder d'autres options. C'est mon opinion personnelle, mais on nous encourage beaucoup à poursuivre les études classiques. Sachez qu'il y a quand même d'autres options dans d'autres métiers qui sont tout aussi respectables et tout aussi sympas à faire finalement.
Un petit mot sur ton uniforme. J'aimerais que tu nous expliques.
Alors l'uniforme, nous avons comme toujours une chemise, une cravate, etc. Et après nous avons ce qu'on appelle les galons. Donc les galons, c'est les espèces de barres qu'il y a sur les côtés, sur nos épaules. Donc quand on a une barre, en fait, ça veut dire qu'on est étudiant de vol. Quand on reçoit notre licence de pilote commercial, on a notre deuxième barre, donc on a deux petites barres, et en plus elles sont dorées, donc on est tout content. Après, quand on rentre en compagnie aérienne et on passe les 1500 heures en général, on reçoit notre troisième barre, donc on passe à être un first officer. Et quand la carrière a déjà bien commencé, qu'on est bien stable, qu'on a beaucoup appris dans l'aviation, normalement on nous propose d'être capitaine. Au minimum, on a besoin de 3000 heures de vol. Ça peut s'étendre à 5-7 000 en dépendant des compagnies aériennes. Et puis après, on a les belles 4 barres avec lesquelles on termine notre carrière en beauté.
Je voulais juste revenir à l'école. Tu as fait un bac S.
Exactement, oui.
C'est ce qu'il fallait faire.
Le bac S, ça donne quand même une sécurité au niveau maths, physique, parce que bon, il y en a quand même un peu. C'est vrai que le niveau n'est pas très complexe en soi-même dans le niveau au calcul, mais par contre, il faut vraiment bien comprendre ce qu'on nous raconte, parce que les examens se déroulent en QCM, en fait, c'est une question avec 4 réponses, et il y a 2 réponses qui sont incorrectes, mais qui sont moyennement incorrectes, donc elles sont potentiellement correctes, et après, il y en a 2 qui sont correctes, et il faut choisir la plus correcte des 2. Vous pouvez imaginer que c'est très très compliqué, il y a des fois, on doute de nous-mêmes, et c'est là pour justement voir si on est capable de surmonter ce doute, et aussi de faire attention aux petits détails, parce qu'en avion, chaque petit détail compte. Si on ne voit pas une petite lumière, peut-être que c'est un truc très important qui est en train d'arriver à notre avion. On nous entraîne à ça depuis le début. Et d'ailleurs, bon, en tant qu'élève, c'est un peu frustrant des fois quand même. Mais quand on réfléchit bien, on prend du recul. On se dit que finalement, c'est une bonne chose qu'on s'entraîne depuis le début. Parce que bon, finalement, c'est quand même une grosse responsabilité qu'on va avoir.
Par rapport aux langues,
ma formation s'est déroulée complètement en anglais, avec des instructeurs anglais qui ont des accents irlandais, de l'Angleterre, etc. Donc bon, cette formation se situe à Oxford également, qui ont leur propre accent. Donc vous pouvez imaginer que oui, il faut bien se préparer à l'anglais, spécialement si vous allez faire vos études en Angleterre. Comme je disais, ces questions, elles sont très très wordy, on appelle ça en anglais. Le langage est très très important, donc il faut vraiment avoir une profonde compréhension de l'anglais. Donc je vous encourage à vraiment travailler dessus, sinon ça va être la cata pour vous et vous décidez d'être pilote. Et également pour les examens d'anglais, car pour être pilote, il y a aussi des examens d'anglais. C'est des examens de télécommunication et ça va d'un niveau de 1 à 6. Donc vous pouvez imaginer que le but c'est d'avoir 6 sur 6, mais c'est quand même très très difficile. Même il y a des Anglais qui n'ont pas le niveau 6. Donc c'est des examens à préparer, il faut être bon en anglais quoi, en gros.
Un petit message à passer à nos auditeurs.
Je vous souhaite le meilleur. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots le bonheur que c'est de pouvoir vraiment faire ce qu'on aime, ce qu'on a toujours adoré de faire. Essayez de vraiment vous laisser faire par ce que vous aimez, même si parfois ça peut être un peu complexe, ça peut être une situation qui vaut de l'affrontement avec vos parents ou avec la famille. Ça peut toujours valoir le coup et franchement, faire ce qu'on aime, c'est aller en cours le matin, y aller avec un gros sourire, avoir aussi une bonne cohésion de groupe parce qu'on se retrouve avec des personnes qui aiment la même chose que vous. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié, que j'ai énormément valorisé à Oxford parce que franchement, depuis toujours, passionné d'aviation, faire des études d'aviation, on peut pas rêver mieux quand même.
Que sont-ils devenus? Rappelez-vous le LFB? Que sont-ils devenus? Que font-ils maintenant? Vous vous rappelez du lycée français de Barcelone?
Bonjour à tous, je suis Gabriel, Gabi pour ceux qui me connaissent, ancien élève au LFB, et je suis actuellement en train de finir ma formation et mes études pour devenir pilote de ligne. Alors personnellement, j'ai fait une formation intégrée qui consiste à passer de 0 à 100, c'est-à-dire de passer de 0 au siège droit d'un avion de ligne que vous pouvez voir à l'aéroport. La formation se partage en 4 étapes. Une formation initiale de grand school qui se fait à Oxford où l'on va faire tous les examens théoriques et apprendre toute la théorie nécessaire pour la bonne opération d'un avion de ligne. Une fois que la Ground School est finie, nous allons passer à la suivante phase, qui est la phase initiale de vol à Phoenix, où l'on va piloter des avions monomoteurs au début, en utilisant la navigation à vue, c'est-à-dire que l'on va se repérer en regardant autour de nous les indices qu'on a au sol. On va pouvoir naviguer de façon visuelle. Après toute cette partie qui inclut aussi le premier solo, c'est-à-dire votre premier vol tout seul, et toute une série de navigations qui se font aussi tout seul dans la zone autour de Phoenix, on va passer sur des avions multimoteurs dans un PA-34 Seneca 5. Le but va être de passer sa licence de pilote commercial, c'est-à-dire que l'on va pouvoir emporter des passagers et remporter de l'argent en passant cet examen. Une fois que l'on a fini notre CPL, nous allons passer à la phase avancée de vol. Actuellement, depuis le Brexit, elle se déroule à Anvers, antérieurement c'était à Oxford, car on a besoin, pour avoir une licence européenne, de faire cette phase de vol dans un espace aérien européen. Et malheureusement, l'espace aérien britannique n'est plus européen depuis le Brexit. Du coup, nous allons faire du vol aux instruments à Anvers, c'est-à-dire que nous allons naviguer, nous allons voler dans les nuages, autour des orages. On va être guidé par les contrôleurs de façon plus assidue et on va apprendre également à voler dans des conditions de météo plus défavorables avec moins de visibilité. Finalement, une fois que l'on a fait tous les vols, on va passer faire un examen qui s'appelle le Instrument Rating qui va nous permettre de voler professionnellement dans les nuages. Nous passons maintenant à la dernière partie, la phase multi-crew. En gros, c'est une phase où l'on va vous apprendre à piloter un avion en divisant les tâches par deux personnes. Cette phase s'appelle la MCC APS, donc Multi-Crew Cooperation Course Airline Pilot Standard. Le but de cette phase est d'apprendre à diviser les tâches avec son coéquipier, notamment quand il y a des pannes ou des problèmes à résoudre, ce qui n'est malheureusement pas toujours évident. La communication est très importante, le rôle de chacun doit être très bien défini. Et une fois que l'on passe à cette phase, c'est la fin. On reçoit nos licences européennes et puis le monde professionnel s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on peut postuler chez des compagnies aériennes, si on a un peu de chance, parce qu'actuellement avec le Covid, c'est pas gagné. On peut faire de l'instructorat, c'est-à-dire qu'on va devenir instructeur de vol. On peut faire aussi d'autres activités moins régulières, tant que le parachutisme par exemple. Ce sont les différentes options professionnelles que l'on a, comme j'ai dit, après avoir fini notre école. La partie la plus difficile au niveau professionnel, c'est ce qu'on appelle le job hunting. Donc c'est le premier job qu'on va trouver en tant que pilote. C'est vraiment un point qui va définir notre carrière, car nous n'avons pas beaucoup d'expérience. On ne peut pas toujours choisir où est-ce qu'on veut travailler, sur quel avion on peut travailler, dans quelles conditions, dans quelle compagnie. Nous allons parler du Covid. La crise du Covid-19 a fait énormément de dégâts en aviation. Ça a évidemment rajouté une énorme pression dans le secteur aéronautique et une énorme pression sur nos élèves car nous finissons notre training. Moi, je suis près de la fin et je dois avouer que c'est pas très agréable savoir que dans quelques mois, j'aurai le papier après tant d'efforts qui va me permettre de piloter des avions de ligne et ne pas pouvoir l'utiliser. Il va falloir peut-être se dérouter vers des jobs temporels et faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Le problème avec le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes très qualifiés avec beaucoup d'expérience qui sont sur le marché sans travail. En arrivant en tant que cadet, avec peu d'heures de vol et peu qualifiés, c'est encore plus dur de trouver un travail, notamment en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu une vraie augmentation des nombres de vols dernièrement, dans les derniers mois, depuis la vaccination. Ce qui était une très bonne nouvelle pour les pilotes, évidemment, aussi pour le secteur aérien en général. Malheureusement, en Europe, nous n'avons pas encore ce redécollage des activités aériennes. Mon analyse personnelle sur ce fait est qu'évidemment, en Europe, on a énormément de frontières avec différents pays, différentes langues, différentes règles. Et tout ça joue en contre de la facilité pour reprendre. Car chaque pays va avoir ses restrictions, chaque pays va avoir ses tests PCR, ses déclarations à faire, ces restrictions, et c'est vrai que, je l'avoue, c'est pas évident de voyager en Europe en ce moment. C'est tout, j'espère que je vous ai donné une petite idée de ce que je vais faire en continuation. J'espère vraiment aussi que l'aviation va reprendre, notamment pour les nouveaux pilotes qui, potentiellement, vont se former après moi.
Merci Gabi.
Merci à toi, bonne journée.